Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Heureux de vous savoir à l'écoute de cette émission d'Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité économique sur Radio de la Paix. Ce numéro s'intéresse à l'actualité récente au Sénégal. La dette cachée du pays qui a été découverte par la Cour des comptes et qui est évaluée à plus de 4200 milliards de francs CFA. C'est quoi une dette cachée et quelles sont les conséquences économiques et financières après cette découverte pour le pays? Nous en parlerons avec le professeur en économie Yaoprao Séraphin dans la rubrique Regard sur la gestion de l'économie. Dans Itinéraire, nous irons à Gagnoua pour découvrir un passionné de la culture de l'oignon avec Abel César Cassin. Nous découvrons Niao Emmanuel qui a fait des études en finance banque en Irlande, mais qui est revenu en Côte d'Ivoire pour s'adonner à sa passion, la culture de l'oignon. Avant tout cela, un petit zoom sur certains termes que vous entendrez dans cette émission et c'est dans le lexique économique qui démarre maintenant.
Le lexique économique. Le lexique économique.
L'histoire de la dette cachée du Sénégal.
En termes d'histoire, retenez que c'est une dette cachée de 7 milliards de dollars, soit plus de 4 200 milliards de francs CFA, laissée par le président sortant Macky Sall, qui a été découverte par la Cour des comptes et confirmée par le FMI. Selon ces deux structures, les chiffres auraient été falsifiés en 2019 et 2024 et de nombreuses anomalies ont été identifiées.
Comment cette dette a-t-elle été découverte?
C'est à la demande des nouveaux dirigeants du pays, Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, et Ousmane Sonko, le premier ministre, qu'un audit des finances du pays a été lancé. En février, la Cour des comptes a confirmé que les finances du pays sont dans un état catastrophique, une dette qui a atteint 100% du PIB, faisant du Sénégal l'un des pays les plus endettés du continent. Et c'est bien loin de ce qui avait été avancé par les prédécesseurs, qui évaluaient plutôt la dette à 110% du PIB. Une mission du FMI en mars a confirmé ces chiffres et le montant de près de 1,8 milliard de dollars, qui équivaut à près de 2 000 milliards de francs CFA validés en 2023, a été suspendu dès septembre. Il faut indiquer que la même décision a été prise contre le Mozambique en 2016, lorsqu'une dette cachée de 2 milliards de dollars avait été découverte.
Regard sur la gestion économique nationale.
Prao Yao Séraphin, bonjour.
Bonjour, Jean-Paul Comé.
Alors, Prao Yao Séraphin, l'actualité au Sénégal, surtout l'actualité économique, c'est cette information de ce que la Cour des comptes a révélé que sur la période de 2019 à 2024, sous le régime de l'ancien président Macky Sall, il y a eu une dette cachée qui est équivalente de plus de 4 200 milliards de francs CFA. C'est quoi une dette cachée, vous qui êtes économiste?
Ben, une dette cachée, c'est une dette qui n'a pas été officiellement présentée dans les comptes de l'État. Le compte officiel, je veux dire, vous savez, logiquement, un pays doit avoir ce qui est étonnant pour le cas du Sénégal, hein, en matière de gestion des finances publiques. Le trésor public, qui est le banquier de l'État, devrait avoir un compte bancaire. Et il apparaît que là, visiblement, monsieur Macky Sall a déclaré un seul compte alors que l'État sénégalais avait plusieurs comptes. Et donc, du coup, c'est sur le compte déclaré qu'on a fait effectivement le cumul de la dette sénégalaise qui, selon eux, était aux alentours de 15 600 milliards. Alors que, après la Cour des comptes, nous sommes autour de 18 558 milliards de francs CFA. Donc, il y a plusieurs comptes, mais c'est un seul compte qu'on a déclaré. Et donc, les autres comptes, s'il y en avait peut-être 5, et qu'on a déclaré un compte, les autres comptes, on les appelle les comptes cachés.
Alors, mais on se pose la question, comment un État réussit-il à cacher une dette? Par quel mécanisme?
Ben, c'est ce que la Cour des comptes aujourd'hui tente de savoir. Mm-hmm. Parce que, vous savez, en finance, on peut toujours tricher. Et donc, dans le cas d'espèce, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le FMI propose, par exemple, qu'on centralise les comptes. Normalement, dans un État sérieux et moderne, un État où il n'y a pas de tricherie, il doit avoir un seul compte au niveau du trésor public, puisque le trésor public, c'est le banquier de l'État. Un seul compte. Et donc, du coup, en matière de gestion de la dette, puisque l'État doit honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires locaux et ses partenaires extérieurs, c'est sur le compte, effectivement, qu'on doit tirer les chèques. C'est-à-dire qu'on doit prendre l'argent, pour être clair, pour payer, effectivement, les créanciers locaux, c'est-à-dire ceux qui détiennent la dette intérieure. C'est sur ce compte que le trésor utilise pour payer. Et pour payer aussi chaque année ce que nous devons payer en termes de service de la dette. Mais visiblement, par vraiment une assémie dont M. Macky Sall et son administration ont le secret.
Alors, donc vous le notez, c'est une question de transparence et de gouvernance. Alors, comment expliquer cette technique qui consiste à cacher une dette? Pour quel objectif poursuivi?
Mais l'objectif, mais ce sont les détournements. Et regardez bien, M. Jean-Claude Combes, ce qui s'est passé. Voilà un pays où les recettes budgétaires étaient estimées à 16 160 milliards de francs CFA, dont 308,53 devraient être recouvrés en 2019. 4,8,2 milliards devaient être recouvrés en 2024, dont des émissions, selon eux, des émissions de 261,71 milliards de créances douanières. Comment vous pouvez comprendre ça? C'est-à-dire que les douaniers nous disent, les services douaniers nous disent, ah, on devait recouvrer 261,71 milliards, mais on n'a pas pu recouvrer l'argent. Mais comment ça se passe? Dans un état normal, M. Jacques-Claude Combes, vous voyez, ça ressemble à un état bananier et c'est simplement du faux. Toutes ces sommes dont je viens de rappeler ont été simplement cassées et volées par l'ancienne administration, simplement.
Alors, le FMI qui se prononce aussi sur le sujet dit que l'objectif, c'était de pouvoir paraître sur les marchés internationaux comme étant un pays qui gère bien ses finances et donc qui respecte le seuil communautaire de 70%, alors que selon les prévisions, c'était pratiquement 100% en termes de hausse du PIB. Quelle analyse vous faites de cela?
Bon, là, je suis vraiment désolé. Je ne voudrais pas que le FMI vienne encore avec son catéchisme infantilisant, toujours le verset après la mort. Je voudrais vous rappeler, M. Jacques-Claude Combes, que depuis la dévaluation de 1994, les tuteurs des politiques économiques et de la surveillance technique de la viabilité de la gestion macroéconomique, désormais, c'est le FMI. C'est pourquoi, dans chaque pays, il y a un représentant résident du FMI. Et très régulièrement, je dis bien très régulièrement, ce représentant travaille avec le ministère de l'économie, avec les régies financières et avec le ministère de la gestion du portefeuille, etc. Donc, il ne faudrait pas que le fonctionnaire du FMI vienne injurier notre intelligence en nous disant que certainement cela a été fait pour paraître joli. Monsieur Jacques-Claude Combes, je vous dis que cette institution qu'on appelle le FMI, lorsqu'il, la Grèce, qui est un pays européen, voulait rentrer à l'époque dans l'Union européenne, mais le FMI savait exactement que la banque Goldman Sachs effectivement a fait ce que nous appelons le pitouillage macroéconomique. Ça veut dire cacher les vrais chiffres et faire paraître le pays comme respectant, n'est-ce pas, les critères de convergence. Ici, connaissent les fonctionnaires. Et quelques années après, vous êtes quand même contemporain, vous savez ce qui s'est passé avec la crise de la dette. Donc, ce que le FMI fait, moi j'ai mal au cœur, nous devons mieux gérer notre argent pour ne pas avoir affaire à ces institutions-là. Et comme M. Macky Sall n'est plus au pouvoir, c'est bien beau de venir effectivement aujourd'hui dire qu'il était ceci, il était cela, voilà ce qu'il a fait. Mais eux, ils savaient bien.
Alors justement, on se pose aussi la question du rôle de la Cour des comptes. La Cour qui est supposée certifier la gestion étatique et qui, pendant cette période, n'a pas contredit les chiffres et contredit désormais en révélant justement cette dette cachée. Et quel commentaire cela vous inspire?
Oui, cela m'inspire effectivement de ce que, comme je vous ai dit toujours, quand en Afrique, quelqu'un vient au pouvoir, il vient avec son clan. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, même les fonctionnaires les plus exemplaires, frappés d'une certaine probité. Quand vous venez et que vous avez une gestion clanique, mais c'est de telle façon que vous comportez. Jacques-Claude Combes, c'est mon frère. Je vois bien qu'il est en train d'avoir un comportement dispendieux, hasardeux. Un comportement vraiment qui ne respecte même pas la transparence des finances publiques. Mais comme c'est mon frère, je m'arrange à ne pas éclabousser effectivement sa présidence. C'est ce qui s'est passé. Et quand M. Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont pris le pouvoir, mais ils ont remplacé les anciens. Et donc, c'est l'occasion pour moi, comme vous le dites, de demander à la Cour des comptes dans tous les pays africains de jouer leur rôle. Parce que l'argent public ne doit pas être vraiment assimilé à l'argent privé. Les Africains sont fatigués de s'endetter en dehors. Je vous dis, Jacques-Claude Combes, regardez bien ce qu'on a dilapidé. 4 250 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que ça ne peut pas faire en termes de construction d'écoles? Qu'est-ce que ça ne peut pas faire en termes de construction d'hôpitaux? Parce que demain, il faut aujourd'hui faire des efforts pour aujourd'hui subventionner le riz, l'huile, les tomates, parce que c'est un pays qui importe beaucoup.
Alors, professeur Prao, justement, quelles pourraient être les conséquences de ce constat fait, de cette dette cachée?
Premièrement déjà, vous voyez, la sentence qui est tombée, c'était quoi? C'était la dégradation de la note du Sénégal. Dans votre pays, la Côte d'Ivoire, très récemment, vous faites appel, n'est-ce pas, aux obligations internationales. Et vous faites appel aussi au financement interne, c'est-à-dire que les obligations à la BRFM que vous levez et tout le temps. Mais pour que vous, Jacques-Claude Combes, et moi, les investisseurs, les banquiers locaux comme internationaux, puissent financer l'État de Côte d'Ivoire, il faut que l'État de Côte d'Ivoire paraisse effectivement, comme le FMI a dit, comme étant un État viable, un État sain, un État bien géré, un État capable de gérer l'argent pour rembourser. Mais là, visiblement, le Sénégal fait pitié. Parce que les finances publiques aujourd'hui, qu'on nous venons de découvrir, vous et moi et tout le monde, montrent que le Sénégal était dans un état très dangereux. Et lorsque la dette représente 100% de votre PIB, monsieur, si le Sénégal était une entreprise, mais elle serait en faillite.
C'est ça.
Donc, mauvaise notation, moins d'entrée de fonds. Deuxièmement, manque de crédibilité dans ce pays. Ça veut dire que ce n'est pas un pays sur lequel on peut compter. D'abord, c'est un pays dont les autorités mentent énormément, c'est ce que ça veut dire. Et ils cachent régulièrement les chiffres, on ne peut pas faire confiance à ce pays-là. Et troisièmement, les investisseurs directs étrangers qui vont venir, ils vont dire quoi? Ben, ils ont peur. Un tel pays, on n'a même pas besoin quand même de réfléchir, que M. Diomaye Faye et le gouvernement Sonko, ils sont obligés d'aller vers ce qu'on appelle le désendettement. Et aller vers le désendettement, c'est quoi? La première chose à faire, c'est augmenter les impôts. Donc, les recettes budgétaires et les recettes fiscales, ce sont les impôts que nous payons. Donc, ils vont augmenter tout à suite, effectivement, la pression fiscale, puisque vous savez qu'en Afrique, l'asset fiscal n'étant pas large, c'est quelques entreprises et quelques personnes qui payent. Donc, augmentation. Et si un investisseur étranger apprend ou sait, parce qu'il connaît le modèle macroéconomique, qu'il va avoir augmentation des impôts, ils ne viendront pas.
Pour aller dans votre sens, comme autre conséquence, le FMI, avec la première information, avait gelé donc sa coopération, hein, la facilité de crédit accordée. Bon, il y a une visite donc d'une délégation du FMI dans ce pays après discussion. Il y a quelques recommandations faites, l'unification donc des comptes du Trésor et puis des possibilités de soutien à nouveau. Comment vous appréciez, hein, cette aide que le Fonds monétaire international veut apporter dans la relance économique du pays?
Oh, je trouve que c'est, à mon humble avis, hein, c'est le service minimum. Je trouve que c'est indécent. Le représentant, je le répète, M. Jacques Koumé, le représentant pays du FMI est là. Et très régulièrement, il dîne avec le président. Il était au courant de tout cela. Il a laissé faire. Et aujourd'hui, je trouve que, franchement, c'est irrespectueux.
Mais on peut vous rétorquer, hein, professeur, que justement, le FMI ne reçoit que les informations communiquées par les États. Et c'est sur cette base que ce fonds fait des analyses. Il ne peut pas parler au-delà des dirigeants du pays.
Non, le comité de viabilité de la dette a été imposé par le FMI. Quand j'entends aujourd'hui le représentant résident du FMI dire que le niveau d'endettement de 100% de la dette ne fait pas du Sénégal un pays qui n'est pas viable, je ris. C'est parce qu'aujourd'hui, le FMI est dos au mur. Parce que c'est... Je dis aujourd'hui, ce qui se passe, ça éclabousse le FMI également. Et donc, à mon humble avis, le FMI non seulement doit donner les 1,8 milliards de dollars à mes frères sénégalais, et deuxièmement, l'argent que le Sénégal devait rembourser au FMI doit être purement annulé.
Vous aviez pointé du doigt ce cycle vicieux d'endettement. Comment les pays africains et le Sénégal, hein, pour parler de ce cas, pourraient sortir de cette ornière vraiment en termes de stratégie?
Premièrement, ce qu'on doit faire dans l'urgence, hein, c'est avoir un seul compte. Parce qu'il faut que le Sénégal nous dise exactement quel est le compte sur lequel on doit tirer les chèques, etc. Un seul compte. Et c'est valable pour tous les pays. Il faut centraliser les services en charge de la dette. Logiquement, il y a des fonctionnaires qui gèrent la dette qui sont au ministère du Plan, qui sont au ministère de l'Économie, qui sont ministères du portefeuille de l'État. Bon, tous ces dédoublements-là, c'est dispendieux, c'est coûteux et puis c'est une lourdeur administrative. Bon, il faut qu'on sache exactement, tout doit être centralisé dans un compte clair et il faut qu'il y ait un contrôle régulier. La Cour des comptes aujourd'hui, à mon humble avis, dans nos États, chaque 3 mois, il faut qu'il y ait effectivement des ministres d'audit. Chaque 3 mois, il faut la transparence. Il faut que ceux qui nous gouvernent montrent autre chose que ce que nous voyons. Le train de vie de l'État, j'ai dit, il est trop dispendieux.
Alors, donc, pour vous résumer, pour vous, la question de la transparence et la bonne gouvernance doit être la trame, hein, justement, désormais, des pays comme le Sénégal, des pays comme la Côte d'Ivoire, en tout cas de tout pays africain pour son développement.
Exactement, exactement.
Professeur Yao Prao Séraphin, je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup, Jean-Claude Koumé.
Itinéraire, le parcours de vie de notre invité.
Dans Itinéraire aujourd'hui, comme je vous le disais, nous nous rendons à Gagnoa pour découvrir un passionné de culture de l'oignon. Niahuo Emmanuel, il s'appelle, a fait des études en finance, banque en Irlande, mais est revenu en Côte d'Ivoire pour s'adonner à sa passion, la culture de l'oignon. Découvrons-le dans cet entretien que conduit Abel César Cassin, notre correspondant dans le Gord.
Je suis de formation finance banque. Les études que j'ai effectuées en Irlande, dans un pays anglophone, ben, vous connaissez l'Irlande, il y a deux Irlandes, il y a l'Irlande du Nord et l'Irlande République. Moi, j'étais surtout à Irlande République, où j'ai étudié à l'Institut of Technology de Tala, Tala qui est un quartier de Dublin, ben, où j'ai étudié en finance banque pendant 4 ans. Et à l'issue, je suis rentré pour des raisons personnelles pour mener mes activités dans mon pays. Rentré chez moi, je suis basé à Gagnoa, où je me suis investi dans la production de l'oignon violet. Parce que nous avons notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est un pays à vocation agricole. La clé, le point fort de l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc, être agriculteur, je crois que c'est participer encore à un niveau de développement économique de la Côte d'Ivoire.
Il est dit que l'oignon ne pousse pas en Côte d'Ivoire. Quelle est la réalité?
Ben, la réalité, l'oignon pousse bel et bien en Côte d'Ivoire. Du nord au sud, à l'est, à l'ouest, l'oignon pousse.
Alors pourquoi c'est importé?
Ben c'est importé pour des raisons stratégiques ou des décisions politiques. On n'a pas voulu vulgariser cela. Sinon, il pousse bel et bien et il est plus rentable que le binôme café-cacao. À vous de voir, en ce moment, l'oignon violet, le kilo fait 1200 francs sur le marché. Dans les périodes de grandes fêtes, c'est-à-dire la Noël, la fête de fin d'année, les fêtes de Ramadan, Tabaski, vous allez le kilo jusqu'à 1500 francs. Alors, qui va me dire qu'aujourd'hui, qu'une plantation d'EVA d'un hectare peut produire 10 tonnes. 10 tonnes en oignons, si je fais 500 francs le kilo, ça me fait 5 millions. Qui a pu avoir 5 millions avec un hectare d'EVA? Il n'y en a pas. Donc, je tiens vraiment toutes ces personnes-là au défi de me trouver à Gagnoa. Je leur ferai la démonstration.
La première fois on vous a vu, c'était à un salon agricole. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir la culture de l'oignon violet?
Alors, juste après mes études, dans mes recherches comme ça, puisque j'avais en tête, j'ai ma famille qui est restée au pays, puisque je devais rentrer, alors qu'est-ce que je vais faire? J'ai réfléchi et puis comme ça, dans mes recherches, je suis tombé sur l'oignon culture. Et j'ai été très surpris de ce que mon pays, la Côte d'Ivoire, importe de l'oignon. Selon les recherches que j'ai eu à effectuer, depuis 2012, la Côte d'Ivoire importe l'oignon du Burkina, du Niger et le reste du monde à hauteur de 40 milliards. Ça, c'était en 2012. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Si je n'exagère pas, je dirais que l'importation va coûter à la Côte d'Ivoire aujourd'hui 100 milliards par an, pourquoi pas. Quand je vois cette masse d'argent, oui, quelqu'un qui a fait l'économie, qui a étudié la banque, une masse importante d'argent comme ça qui sort du pays, cet argent devait revenir dans la poche de la population. Donc, ça fait un choc électrique dans ma tête. Pourquoi ne pas œuvrer pour que cet argent reste dans mon pays? L'oignon violet, parce que d'abord, c'est une très bonne variété. Elle est résistante. Elle a une saveur exceptionnelle par rapport à l'autre oignon blanc. Elle est bien épicée. Elle contient moins d'eau. Et sa culture nécessite pas des grandes recherches scientifiques comme beaucoup le pensaient que la Côte d'Ivoire peut pas produire de l'oignon, ce qui est archi faux. On le produit bel et bien ici, ça marche bien et puisque c'est beaucoup demandé par la population, donc voilà comment j'ai opté pour cette variété.
Justement à Gagnoa ici, quel résultat avez-vous obtenu?
Si vous étiez venu un peu tôt, je serais parti avec vous sur la route de Maïbois juste après le corridor là. Un hectare qui a produit là, et puis on serait parti à Dobia, où monsieur le sous-préfet central de Gagnoa a été témoin de la récolte. En 2001, où Assier Guillaume, qui est originaire de Bobia, un village à 7 km d'ici, a obtenu 200 kilos pour combien? 10 planches, et disons, sur 10 mètres carrés, il a eu 200 kilos. Ensuite, j'ai eu un partenaire à Isabré, avec qui nous avons fait un hectare. Un hectare, on s'est retrouvé à 8 tonnes. 8 tonnes parce que ces ouvriers n'ont pas mis la main véritablement à la tâche. L'oignon nécessite un grand travail. Je me retrouve aujourd'hui à Sassandra avec quelqu'un qui a eu mon contact à partir de Facebook. Donc, je continue de faire avec les petites surfaces de démonstration. Un entrepreneur, c'est prendre des risques. On tombe, on se relève et un jour, pourquoi pas, avec Radio de la Paix aujourd'hui, le message qui sera entendu par la population, peut-être j'aurai encore beaucoup de coopératives motivées qui vont me solliciter et puis nous allons continuer le travail.
Vous écoutiez en l'instant Itinéraire qui recevait pour vous Naïo Emmanuel, producteur d'oignons à Gagnoa. C'est ce qui met un terme à cette économie à de ce jour. Merci de l'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.